Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Sortie de boîte n'est pas une émission très vieille, mais il a quand même fallu attendre la 5e édition pour avoir une invitée. Je l'ai rencontrée dans les locaux de son entreprise, Alcyon, à Porrentruy. On les trouve assez facilement en fait, parce qu'ils sont au-dessus du bancomat de la Banque Cantonale du Jura, la BCJ, pour les intimes. Elle ignorait probablement, en emménageant là, qu'un jour elle présiderait le conseil d'administration de cette banque. J'y arrive, elle m'accueille, son bureau est plutôt bien rangé, on y devine quelques piles de dossiers à traiter quand même. Lunettes dans les cheveux, détendue, elle est dynamique, passionnée, elle aime le travail, la vie active, voire hyperactive, mais sans spécialement vouloir se mettre en avant. Elle est quand même là ce soir. En préparant cette émission, j'ai pu deviner chez notre invité un certain goût pour les métaphores maritimes. Je suis donc ravi d'accueillir dans la barque de sortie de boîte celle qui est à la barre de la Banque Cantonale du Jura, lâcher les amarres, Christina Pemberg, bonsoir.
Bonsoir Cédric, merci de m'accueillir.
Et vous auriez pu me corriger, c'est larguer les amarres. Mais oui, on ne va pas faire toute l'émission avec un champ lexical maritime, c'est promis. Mais quand même, pour la première question, je suis obligé. Comment vous est venue l'envie de naviguer dans le monde de l'entrepreneuriat, Christina Pemberg?
Je suis tombée dans la soupe quand j'étais enfant. Non, sérieusement, je viens d'une famille entrepreneuriale et c'est un état d'esprit auquel j'ai été exposée quand j'étais petite et quelque part, ça a été formateur par rapport à mon caractère et ma personnalité, tout simplement.
C'est-à-dire que dans votre éducation, il y avait vraiment cette notion de faire les choses par soi-même, c'était ça?
Tout à fait.
Vous avez un exemple?
Écoutez, mon père avait monté sa propre entreprise avec son frère à partir de zéro. Ils ont géré ça, ils ont monté d'autres entreprises après. Donc, c'était vraiment le côté d'entrepreneur itératif.
Tomber dans la soupe, donc. Le parcours ensuite, il y a eu beaucoup de voyages. Parcours qui vous amène à présider aujourd'hui la Banque Cantonale du Jura. Des études à Harvard, vous avez travaillé en Angleterre, au Japon également. Et il y a 4 ans, vous revenez dans le canton du Jura. C'était un objectif pour vous?
Non, pas forcément. Je crois fermement qu'il est important de rester ouvert aux opportunités et puis, quand elles surgissent. Et puis, donc, des plans rigides, j'aborde ça. Donc, très peu pour moi, merci.
Mais vous êtes contente d'être revenue quand même?
Tout à fait, tout à fait.
On imagine parfois le monde économique comme rigoureux, comme carré, comme un peu ennuyeux pour certains. Vous m'avez dit que vous y voyez de la créativité. En quoi?
Oui, alors vous construisez quelque chose. Donc, par définition, il y a de la création. Votre palette, ce n'est pas des couleurs comme pour un artiste, mais ce sont des facteurs humains, les collègues, les employés, les clients, ainsi que des facteurs exogènes comme l'économie, les marchés. Et en plus de tout ça, c'est constamment en changement, ce qui fait que ce n'est pas du tout statique et ça devient très rarement une routine.
Un immense puzzle?
Oui,
exactement. On peut dire ça comme ça.
Exactement.
Entre la gestion de votre entreprise, la présidence du conseil d'administration de la BCJ, de nombreuses autres activités, on imagine votre agenda et l'énergie que vous y dépensez. Qu'est-ce que ça vous apporte en retour?
Pour moi, c'était une façon d'apprendre quelque chose par rapport à une banque universelle. J'ai baigné dans le monde de la finance, mais la banque universelle en soi, je connaissais un peu moins. Donc il y a déjà un apprentissage d'un certain secteur, la finance. Après, il y a un apprentissage par rapport à ce rôle de membre d'un conseil d'administration et ensuite la présidence. Donc un rôle de gouvernance qui est très intéressant. Et l'autre chose que ça m'apporte, c'est quelque part aussi une certaine satisfaction de rendre à la région où j'ai grandi, de pouvoir y contribuer.
C'est la première fois que la Banque Cantonale du Jura a une femme pour présider son conseil d'administration. Certains parlent de symbole, vous le voyez aussi comme ça?
Oh, j'espère que j'étais choisie pour mes compétences et pas pour être une figure de proue, être un symbole. Mais si une femme à la tête d'une banque peut servir de modèle quelque part à d'autres femmes, leur donner envie de briguer des postes semblables, des postes à responsabilité, pourquoi pas?
Il y a 30 ans, ça n'aurait pas forcément été possible.
Oui.
Pas sûr. Ouais. La finance, c'est vrai que c'est un monde où très peu de femmes gravitent. Vous m'avez articulé le chiffre de 5% en préparant cette émission. Elles sont ultra minoritaires. Vous, dans votre parcours, vous avez eu parfois l'impression que le sexe était un handicap?
Non, pas vraiment. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai certaines caractéristiques personnelles qui font que j'ai un peu la tête un peu dure, la peau épaisse. Et puis que, je sais pas, j'ai été éduquée d'une manière où on m'a dit que travailler dur pour atteindre ses rêves était important. Donc, même s'il y avait peut-être des obstacles, j'y ai jamais trop fait attention. Mais a posteriori, clairement, il y a des obstacles, des idées préconçues, des stéréotypes. Donc, il y a mieux à faire pour aller à l'encontre de ces ces stéréotypes. On est encore, ça change, ça bouge, c'est pas une situation statique, et puis on espère améliorer les choses.
Vous dites qu'il y a mieux à faire. Vous êtes aussi, sur votre long CV, cofondatrice d'une association britannique qui soutient les femmes qui travaillent dans le secteur financier. Il y a mieux à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de mieux, alors, pour les intégrer mieux au monde de la finance?
Bon, déjà, les femmes elles-mêmes doivent se donner les moyens, que ce soit au niveau, bien sûr, de leur éducation, mais assumons qu'elles aient fait tout ça. Je pense qu'il y a un travail pour elles, au niveau de peut-être se mettre un peu plus en avant, de prise de plus grande confiance en soi. Et puis, de l'autre côté, il y a une importance par rapport aux employeurs, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que ces femmes font partie intégrante de la société, que nous, la société, on investit, que ce soit au niveau des écoles, des formations universitaires, de la formation à l'intérieur des entreprises. Et quelque part, en n'ayant pas une attitude qui démontre une certaine flexibilité par rapport au stade de vie des femmes qui clairement ont des besoins de faire des pauses bébés, etc.
Ça, on entend souvent, hein, c'est impossible, très difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Vous, ça vous a jamais posé un problème?
Moi, ça m'a jamais posé un problème, mais je sais que ça pose des problèmes à d'autres personnes, et clairement, c'est souvent le problème de l'entreprise qui n'évalue pas l'idée d'un temps partiel, etc. Mais bon, quelque part, il faut que les mentalités changent, parce qu'il y a vraiment un manque de productivité pour tous, c'est une perte pour tous qu'une partie de la population qui a été éduquée, formée, ne reste pas dans la vie active.
De manière plus générale, vous affirmez dans une interview au magazine d'Égal à Égal que la diversité est importante dans un conseil d'administration, diversité homme-femme, mais d'autres diversités également. Ça apporte quoi concrètement? Des opinions divergentes, des débats, des sensibilités?
Justement, tout à fait. La diversité au sens étroit du terme, c'est pas ce que je veux dire, c'est vraiment une diversité au sens large. Donc oui, j'y crois fermement à cette diversité. Plus un comité de direction ou un conseil d'administration a de la diversité, plus... et de la part diversité, justement, je parle du sexe, des origines ethniques et de l'âge, par exemple, plus les problèmes sont discutés de différents points de vue et de décisions, les décisions sont plus robustes, moins risquées. Mais aussi, ça apporte quelque part, pas seulement au processus de décision, mais aussi comment une entreprise se positionne. Il faut qu'elle fasse attention à tous les segments de la population qui sont ses clients pour bien les servir. Et si c'est qu'une partie de la population, de cette population qui prend ses décisions, il y a des risque de pas bien cerner certaines sensibilités, certains sujets.
On va parler maintenant vraiment de la banque, la Banque cantonale du Jura. La gestion d'une banque, elle n'offre pas quand même la même liberté que celle d'une PME. Hein. Votre actionnaire majoritaire est le canton du Jura, l'entreprise est cotée en bourse, doit rendre des comptes à Zurich. C'est pas trop contraignant d'être entre deux comme ça?
Clairement, mais c'était ça le challenge et c'était ça l'attrait pour moi. C'est-à-dire ce délicat équilibre entre la bourse et l'actionnaire de tutelle qu'est le canton. Vous opérez dans des contraintes assez spécifiques et c'est justement de faire cette part des choses qui est intéressant.
Le slogan de la banque, c'est BCJ, ma banque. On sent que vous voulez jouer la proximité. Au-delà d'un slogan, comment vous vous y prenez?
Eh bien... c'est étant justement plus proche des gens. Je crois qu'on, par rapport à certains instituts bancaires qui ferment des succursales, on a été quand même assez axé sur avoir un large réseau à travers le canton, à servir notre clientèle. Mais aussi, l'autre façon de servir notre clientèle vient de par le numérique, c'est-à-dire une évolution et un investissement de notre part dans tout ce qui est e-banking, etc., pour que nos clients, quelque part, puissent avoir accès à nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cette proximité, on a voulu la vérifier. C'est vrai que la banque, c'est un milieu que tout le monde connaît. Chacun a affaire un jour avec un banquier. D'autant plus vrai pour une banque cantonale qui se veut proche des gens. Jean-Michel Propp s'est installé tout près d'une banque cantonale du Jura. Il a demandé aux passants ce que représentait pour eux une banque de proximité.
Sortie de boîte.
Pour moi, elle est très importante parce que ça permet d'avoir un contact direct avec son banquier. Ça permet de participer à la vie active, à la vie locale. Et puis, ce qui est important surtout, c'est d'avoir le contact.
On sait que notre argent est en sécurité. Il ne peut pas être volé.
Pour vous, c'est important d'être une banque de proximité plutôt qu'une grande banque?
pas particulièrement, non.
C'est arrivé comment alors ?
J'y suis entré parce qu'ils avaient proposé une offre intéressante au moment où je recherchais une banque. Et...
Qu'est-ce que vous attendez d'une banque précisément ?
Vu que j'étais étudiant, au moment où je suis entré en banque, c'était peu de frais, une possibilité d'une carte de crédit sans risque de vol vu que c'est prépayé, ce genre de choses.
Est-ce que vous pensez que le contact est vraiment différent avec une banque de proximité ?
Je pense, parce qu'on n'est pas simplement un numéro, mais on se connaît par le prénom, assez rapidement ça devient une relation amicale et puis je crois que c'est très important, quoi.
Quand j'entre dans cette banque, je dis « Salut, comment vas-tu ?» à trois des quatre personnes qui sont présentes. Mm-hmm. Les liens sont plus directs, c'est plus rapide. On connaît mes problèmes, on connaît mes particularités. On sait répondre directement à mes besoins. Si je dois téléphoner à Zurich, ça ne marche pas.
Vous avez souvent des questions à poser à votre banque ?
Pas souvent, mais quand j'en ai, je sais qu'il n'y a que ma banque qui peut y répondre.
Vous avez réellement choisi la banque en fonction de ça ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut soutenir local, consommer local. Et pensée globale.
Il faut aller au bancomat, puis comme j'ai des problèmes avec les doigts, j'arrive pas. Alors je viens ici, je peux aller au guichet, mais là-bas, il n'y a plus de guichet. Maintenant, c'est tout le bancomat, il n'y a plus de guichet à la nouvelle banque. Parce que j'ai dit l'autre fois, avec mes mains, j'ai du mal pour faire avec la... Vous voyez quoi ? J'ai pas de sensation, alors les doigts que j'ai, je leur ai montré, mais enfin...
Vous pouvez m'en passer des banques, je m'en passe.
Ah bon ?
Ah ouais, carrément. Ouais.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les banques ?
Ils ne produisent rien, les banques. Non, les banques, ils produisent du papier.
Moi, j'en ai aucune idée, alors je suis venue ici parce que l'année passée, le billet du Champ du Gros était offert. C'est juste pour ça.
Je pense qu'on a plus confiance en une petite banque que dans les grands instituts bancaires. Surtout actuellement, ouais, avec toutes les choses qui se sont passées, les pénalités qu'ils ont dû payer, les amendes qu'ils ont dû payer, ces grands instituts bancaires, ça n'inspire pas très confiance.
Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas venu pour de l'argent, vous êtes venu pour un concert, apparemment.
Je suis venu chercher des billets pour le Champ du Gros.
Ça sert aussi à ça.
Ça sert aussi à ça, c'est aussi important à ça.
Sortie de boîte.
De retour en studio avec notre invitée, la présidente du conseil d'administration de la Banque cantonale du Jura, Christina Pamberg. On l'a entendu dans le reportage, hein, il y a des choses intéressantes, notamment cette personne qui dit « je tutoie les gens, je connais trois personnes sur quatre ». On sent qu'il y a un attachement humain, vraiment humain. La tendance générale dans le milieu bancaire, elle est quand même plutôt à la fermeture de guichets qu'à l'ouverture. Comment vous allez maintenir ce contact ?
Déjà, je suis ravie d'entendre que la dimension humaine reste importante. Quelque part, ça nous conforte dans l'idée que les gens choisissent non seulement leur banque pour la taille de son bilan, mais qu'il y a un rôle à jouer pour une petite banque locale comme la BCJ. Donc, c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Par rapport à nos clients et les soucis par rapport aux guichets, on n'est pas en train de fermer des guichets. Je crois qu'on migre gentiment pour en développant notre e-banking, notre e-mobile, pour aussi servir notre jeune clientèle, justement, qui a envie d'être et qui a besoin d'être peut-être en contact plus souvent avec nous par différents canaux, tout en maintenant aussi nos guichets. Mais que faire du 100% guichet à défaut de pouvoir investir dans l'e-banking et du e-mobile, c'est pas une bonne solution non plus. Il faut faire la part des choses.
Vous parlez des jeunes, on en a entendu aussi dans le reportage, hein, on fait notamment mention du Champ du Gros. Attirer les jeunes aujourd'hui, c'est la cible ?
Oui, quelque part, c'est la cible, et ça l'a toujours été, mais on le fait peut-être de façon plus délibérée. Les statistiques démontrent que trois quarts des jeunes choisissent leur banque par rapport à la banque qu'ont leurs parents. Donc il s'agit peut-être de faire mieux, de reprendre ce quart supplémentaire, quelque part, en nous rendant attrayants, que ce soit justement par la qualité ou les prix de nos services. On avait des conditions intéressantes, disait un de vos interviewés. Mais en leur offrant aussi d'autres services, d'autres prestations autour, comme justement des choses comme le Champ du Gros et d'autres activités que la BCJ sponsorise qui risquent de les intéresser et de les attirer à la banque.
Attirer les jeunes, c'est une chose, les conserver, c'en est une autre. Vous croyez à leur fidélité une fois que ces jeunes deviennent des entrepreneurs, potentiellement des gens plus aisés ?
Déjà, les statistiques de nouveau démontrent que les gens, une fois qu'ils sont dans une certaine banque, il y a une certaine résistance à bouger. Mais bon, le travail est clairement le nôtre à faire, c'est-à-dire d'offrir des services qui continue de rester attractif et de savoir évoluer avec nos clients. Donc, de par notre palette de produits, que ce soit après les aider dans l'achat de leur première maison, les aider on essaye de travailler avec eux. Donc, oui.
Dernier élément entendu dans ce micro-trottoir, la question de la confiance. On a entendu quelqu'un qui dit ça produit rien une banque, c'est que du papier. Des gens qui parlent des crises, on sent que les crises ont fait du dégât quand même au niveau de l'image, la crise des subprimes notamment. Ça, aujourd'hui, vous le sentez, cette perte de confiance ?
Bon, disons que c'est, on le sent partout dans le monde financier, cette perte de confiance. Je pense que là, le challenge est pour nous de continuer à gérer la banque de manière saine pour l'avenir. Donc, quelque part, on a un petit bilan, mais un bilan qui est peut-être plus compréhensible à d'autres que des bilans très, très compliqués d'une grande banque. Donc, on essaie aussi de communiquer justement cette gestion de ce bilan. Et de concert avec ça, il faut qu'on continue à rester compétitif, concurrentiel par rapport à ce qu'on leur offre comme produit.
Un autre défi, c'est la numérisation. Vous avez parlé du e-banking tout à l'heure, et c'est vrai que y a énormément de banques qui utilisent le e-banking, toutes quasiment aujourd'hui. Comment vous allez vous adapter? Parce que moins il y a de guichets, plus il y a de virtuels. Comment vous allez vous adapter à ce phénomène?
Bon, on est en train de suivre cette tendance qui a marché partout en Europe. Comme vous l'avez dit, les jeunes demandent à pouvoir obtenir des services très rapidement, et ça en tout temps et à moindre coût. C'est possible à travers ce e-banking, ce e-mobile, mais aussi toutes sortes de nouvelles applications de smartphones, etc. Donc, un travail qu'on fait à la banque, c'est vraiment de suivre ça, de suivre cette innovation technologique et de rester dans le rythme. Au niveau de nos succursales, clairement, on a constate une diminution des opérations de caisse au profit des opérations de bancomat. Donc, les clients, clairement, suivent. Ça nous permet de repenser notre organisation en réaménageant nos agences, c'est-à-dire en ayant plus de zones libre-service, mais aussi plus de salons pour recevoir la clientèle. Quelque part, la valeur ajoutée que vous pouvez avoir à travers une vitre blindée avec la clientèle, il y a une limite à ça. Déjà, vous vous entendez typiquement mal. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir comme valeur ajoutée? Donc,
ça ne met pas des emplois en danger, cette numérisation?
Pas forcément. Je pense qu'il faudra continuer à éduquer nos équipes à les envoyer à des cours, à des formations pour qu'ils puissent vendre différemment, c'est-à-dire et donc quelque part c'est aussi bon pour nos équipes, c'est-à-dire ils ont une formation, ils évoluent, ils restent pas statiques.
C'est un défi pour les années à venir, cette formation, cette évolution du personnel bancaire.
Tout à fait, leur métier change, hein. C'est clair. Enfin, on parlait de l'évolution de la banque dans 5 ans. Vraiment, les collaborateurs de la banque vont faire un boulot très, très différent qu'ils le font aujourd'hui, qu'ils le faisaient il y a 5 ans.
Christina Pamberg, on a parlé tout à l'heure de votre façon de gérer le temps. Vous avez une montre?
Oui, j'ai une montre. J'en ai même plusieurs en bonne jurassienne.
Elle donne toute l'heure?
Oui.
Ce qui est logique, vous allez me dire, mais quoique, hein, on trouve de tout aujourd'hui. La preuve, dans notre chronique horlogère, on nous parle d'une montre qui ne remplit pas sa mission. Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure. Les maisons horlogères, en tout cas certaines, rivalisent de créativité pour faire parler d'elles. Nous sommes dans un monde d'hypercommunication et la guerre du marketing est déclarée, au point d'atteindre des extrêmes qui nous laissent parfois songeurs. Prenez les lettres qui composent le nom de Neuchâtel, mettez-les dans un sac, secouez et versez le contenu sur la table. Avec un peu de chance, vous obtenez une anagramme suffisamment jolie pour être utilisée, comme Haute-Lance. C'est le nom de la marque créée à Neuchâtel en 2004, désormais installée à La Chaux-de-Fonds. Elle signe des produits très techniques au design poussé. À Baselworld, cette année, elle a aussi présenté une montre qui ne donne pas l'heure et qui s'appelle Playground Labyrinthe.
Dans le grand labyrinthe, allant de salle en salle, de saison en saison et de guerre en aubade.
Quand nous étions gamins, nous avons tous eu entre les mains ce jeu composé d'un plateau avec des parois, d'une bille et d'un trou. Comme dans un labyrinthe, l'objectif est de bouger le plateau pour que la bille trouve le bon chemin afin de s'échapper en tombant dans le trou. Le principe est scrupuleusement le même pour cette montre que j'ai décidément du mal à appeler comme ça. Le cadran, c'est le parcours qui comporte 2 trous et il y a aussi une bille. Aucune aiguille, pas d'affichage digital, aucune indication de temps. Ne cherchez pas, je vous dis, cette montre ne donne pas l'heure.
Le mercurochrome sur nos genoux pointus. C'était nos diplômes de l'école de la rue.
Ce n'est qu'un jeu de gamin miniature qu'on peut porter à son poignet. Enfin, un jeu d'adulte à ce prix-là, 12 000 francs tout de même. Parce que les matières utilisées sont nobles, or, platine, titane, rubis, et qu'il y a tout de même de la technologie là-dedans, un mécanisme comme un ascenseur qui fait remonter la bille sur un plateau quand on a réussi à la faire disparaître. Le coup marketing a réussi. La campagne pub pour cette montre, qui n'en est pas une, a fait le buzz et le modèle qui devait au départ être le seul sera finalement décliné en toute une collection. De quoi donner des idées. J'imagine déjà une machine à laver dans laquelle vous ne pouvez pas mettre votre linge sale.
Ah oui, c'est vrai ça.
Mais devant laquelle vous pouvez laisser Junior regarder des dessins animés pendant que vous prenez l'apéro.
Ma socra de boulot.
Daki homo micro et crapoto basta fuite.
Pile à l'heure.
Notre montre à nous fonctionne bien, elle indique déjà à l'heure de la fin de cette édition de Sortie de boîte. Nous recevions la présidente du conseil d'administration de la Banque cantonale du Jura, Christina Pamberg. Semaine prochaine, on ira se promener entre Boston et Neuchâtel. Notre invité sera un PDG de 34 ans. Luc Gervais est établi à Neuchâtel. Son entreprise OneDrop Diagnostic développe un appareil pour réaliser des diagnostics de centaines de maladies sur la base d'une seule goutte de sang. Christina Pamberg, présentée comme ça, la financière que vous êtes pour avoir envie d'investir.
Clairement, c'est très intéressant. Tout ce qui est science de la vie, c'est des thèmes du jour.
Donc... Et un marché d'avenir. Bah, vous écouterez pour vous faire une idée. En tous les cas, nous étions ravis de vous recevoir dans Sortie de boîte. Très bonne soirée.
Merci de m'avoir reçu. Bonne soirée.
Et vous pouvez réécouter cette émission, l'intégralité, sur notre site internet. Et dans 4 minutes, allez, vous avez rendez-vous avec les informations d'Alexandre Rosset. À la semaine prochaine.